France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Joséphine Reinhartz, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Noé Chaban. C'est le dernier épisode de notre série consacrée à l'influence des États-Unis dans la Caraïbe après le canal de Panama et ses voies étroites d'émancipation après Cuba, dont l'embargo n'est pas prêt de se terminer, après Haïti hier et sa dépendance mortelle. La Colombie, elle aussi, a eu maille à partir avec Donald Trump et son secrétaire d'État Marco Rubio quand ceux-ci ont entrepris de renvoyer chez eux des Colombiens sans papier.
Nous n'avons pas l'impression d'avoir intimidé la Colombie, nous avons l'impression d'avoir conclu un accord. La Colombie avait signé un accord. Ils ont signé un bout de papier qui disait « envoyer ces avions de migrants » et à mi-chemin du vol, ils ont rompu cet accord. Notre réponse a donc été la suivante. Nous avons envoyé ces vols, nous avons dû les ramener aux États-Unis, vous allez donc devoir venir les chercher.
On ne renvoie pas des Colombiens ou des Colombiennes en les menottant, sauf s'ils sont des criminels. Or, il a été constaté que parmi ceux qui sont arrivés ici en Colombie lors de ces quatre derniers voyages, il n'y avait aucun criminel avéré. Et de ce fait, ils ne peuvent et ne doivent être menottés.
Nous avons surmonté l'impasse avec le gouvernement des États-Unis. Nous continuerons à accueillir les Colombiens et les Colombiennes qui reviennent en tant qu'expulsés, en leur garantissant toutefois des conditions de retour dignes en tant que citoyens sujets de droit.
Des sujets de droit qui n'ont pas à subir des vols de 5 heures, les mains menottées dans le dos, avec l'interdiction de se lever ne serait-ce que pour aller aux toilettes. Le président colombien qui avait d'abord refusé qu'atterrisse à Bogota un avion transportant des compatriotes expulsés par Donald Trump, a finalement trouvé un terrain d'entente avec lui, d'accord pour rapatrier des personnes en situation irrégulière, mais dans des avions colombiens et dans le respect de la dignité humaine. Les États-Unis auront, quoi qu'il en dise, eu raison de Bogota puisqu'ils continueront leurs expulsions. Gustavo Petro n'a pas pu s'opposer très longtemps. Il faut dire que Donald Trump a brandi sa menace fétiche, la guerre commerciale, l'augmentation des droits de douane sur les importations, un joker qui fait mouche en Colombie, car elle compte bien sur le grand marché du Nord pour écouler son café, mais aussi ses fleurs, beaucoup de fleurs. On imagine les horticulteurs du pays suivre les échanges sécateurs en main en retenant leur souffle. Pensez-vous, la Saint-Valentin alors approchait. Pour autant, le président colombien ne compte pas laisser à Washington la place que lui donnaient ses prédécesseurs avant que lui ne soit élu, sans remettre en cause la coopération entre les deux pays sur la lutte contre le narcotrafic par exemple. Il compte bien en renégocier les méthodes et les modalités. Alors est-ce la fin de l'alignement traditionnel entre Washington et Bogota? Bonjour Jacobo Grarales.
Bonjour Julie Gacon.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez écrit « Capitalisme agraire, guerre et paix en Colombie » paru aux éditions Routledge. Bonjour Lina Penagos.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes docteur en sciences politiques, enseignante-chercheuse à l'Institut d'études politiques de Fontainebleau et à l'école universitaire de recherche Live, de l'université Paris-Est-Créteil-Lupec. Vos recherches portent notamment sur la géopolitique des migrations et des trafics. Alors Lina Penagos, comme on a commencé toutes les discussions de cette semaine sur les coups de bluff et les outrances de Donald Trump vis-à-vis des Caraïbes, on peut pour cette fois inverser la focale. Est-ce que Gustavo Petro, lui aussi, est dans une mise en scène, dans son bras de fer avec les États-Unis?
Complètement. Il y a une mise en scène auquel on est quelque part habitué avec Gustavo Petro depuis le début de son mandat. Ça se passe quelque part comme pour Donald Trump, au travers des X. Donc il y a des communiqués qui vont, qui viennent et qui font la une non seulement de la presse, mais la révolution totale pour les personnes qui en sont concernées. Or cette question est particulièrement importante parce que ce tweet, cet X qu'il envoie à 3h du matin, ou très très tôt le matin, a des conséquences majeures. Donc d'un côté, tout en parlant de la condition des dignités, des non-dignités, des conditions dégradantes des Colombiens envoyés depuis les États-Unis, chose que personne n'en discute, il décide de rajouter des heures de vol, donc pour ces personnes-là, parce qu'ils ne les reçoivent pas en Colombie,
Il empêche les avions d'atterrir. Donc, prolonge le.
Donc, de fait, il prolonge ces conditions dégradantes. Et ils l'ont dit même une fois qu'ils sont atterris. Et aussi, il nous met dans une situation, je dis, la Colombie, extrêmement complexe. Il y a là une responsabilité profonde, vous le mentionnez tout à l'heure, la Saint-Valentin approche, mais il n'y a pas que les fleurs et les cafés, il y a ces marchés nouveaux des avocats où Gustavo Petro fait vraiment énormément d'accent pour pouvoir justement faire développer l'économie. Et une bonne partie de nos exportations en Colombie s'adresse aux États-Unis. 30% des exportations. Donc 6 millions d'emplois qui en dépendent, et qui pendait un peu sur un fil très délicat après cet envoi de ces X qui a été fait par Gustavo Petro. Donc c'est une mise en avant des problématiques qui a été faite au travers des réseaux sociaux.
Donc on imagine en Colombie les sueurs froides de tous ceux qui vivent des exportations colombiennes vers les États-Unis quand Donald Trump, pour dire à Gustavo Petro, en fait ce n'est pas à vous de m'imposer vos conditions, lui dit qu'il va imposer 25% puis 50% de droits de douane sur les produits colombiens. Sur la question migratoire, Jacobo Grajales, pour rester encore un petit peu là-dessus, quand Gustavo Petro a été élu en juin 2022, est-ce que de son élection à la fin de son mandat, du mandat aux États-Unis, pardon, de Joe Biden, c'était lui à l'époque, donc pendant 2 ans et demi, est-ce qu'il y avait déjà eu des expulsions de migrants colombiens du territoire états-unien et est-ce que Gustavo Petro, le cas échéant, avait déjà manifesté une forme de colère?
Oui, alors effectivement, la nouveauté de ce qui se passe actuellement, c'est plutôt la mise en scène, en fait, de l'expulsion de ces migrants, plus que la réalité d'une politique migratoire états-unienne qui a toujours été très coercitive. Le fait de transporter les gens menottés, c'est une pratique courante pour la police aux frontières états-uniennes.
Même sous Joe Biden.
Joe Biden, bien sûr, et même si on remonte plus loin, Barack Obama a expulsé très très massivement des immigrés sans papier. Donc c'est pas une nouveauté. La nouveauté à la limite la vraie nouveauté c'est la mise en scène, c'est-à-dire embarquer des caméras, avoir des journalistes, avoir toute une panoplie de communication, de communicants qui vont mettre ça en scène pour les bases trumpiennes. L'autre nouveauté également, c'est peut-être la situation de Gustavo Petro à la fois du point de vue interne et externe. Aujourd'hui, il se retrouve dans une situation politique difficile en interne, contestée par à la fois une partie ses supporters, mais aussi toute une partie de la classe politique et des gens qui ont voté pour lui. Et c'est aussi une façon de galvaniser en fait son électorat. En vue des prochaines échéances électorales, où il ne pourra pas se représenter, mais où il aspire à positionner une partie de la gauche pour garder le pouvoir. Et puis il y a aussi ce contexte externe, avec une Amérique latine fragmentée face aux attaques de Donald Trump, et où finalement il n'y a pas de leadership continental qui viendrait s'opposer à ce discours extrêmement violent du président états-unien. Et donc c'était une façon pour Gustavo Petro de tenter d'occuper cette position.
Cette place-là, en rétorquant par exemple à Donald Trump qui assure que tous les expulsés colombiens sont des criminels, que en fait non, il a vérifié les casiers judiciaires et que ça n'est pas le cas, et donc parler de la politique d'expulsion de Donald Trump comme d'une politique fasciste.
El señor Trump en sus discursos dice, le he escuchado, que todo migrante es un delincuente.
Dans ses discours, Monsieur Trump déclare que chaque migrant est un criminel. Il a criminalisé une population.
Una concepción fascista.
C'est une conception fasciste des choses.
No se debe criminalizar grupos poblacionales.
On ne doit pas criminaliser des populations. Je ne peux pas dire que tous les Américains blancs sont des exploiteurs.
Porque estaría cometiendo un inmenso.
Ce serait une erreur immense.
Y peor aún, no puedo decir, son expoliadores y cometen.
Et pire encore, je ne peux pas dire que ce sont des pilleurs juste parce qu'ils sont blancs.
Porque eso mismo fue lo que ocurrió allá en Alemania en 1933.
Parce que c'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne en 1933. Avec la criminalisation d'une population, d'un groupe religieux. Et cela s'est terminé par l'extermination de 6 millions de personnes.
Gustavo Petro s'adressant à Donald Trump comme s'il voulait, Jacobo Grajales, incarner la voix de l'Amérique latine qui s'oppose à ce que les États-Unis imposent leurs règles et qui s'oppose aussi et surtout à Donald Trump. C'est ça, au départ, l'ambition de Gustavo Petro ?
Je pense que c'était son ambition. Alors, c'est pas gagné, hein, parce que l'un des premiers coups qu'il a tenté de jouer, c'est d'organiser une réunion exceptionnelle de la CELAC, qui est une organisation régionale regroupant des États d'Amérique du Sud, centrale et des Caraïbes. La présidence actuelle est détenue par le Honduras. La présidente du Honduras a emboîté le pas et a dit que effectivement la gravité de la situation méritait qu'il y ait une réunion continentale. Mais face au fait que la plupart des États n'ont pas répondu présent, cette réunion a finalement été annulée. Donc, on se retrouve dans une situation où des États qui, historiquement, ont pu tenir des discours souverainistes assez forts face aux États-Unis et constituer un contrepoids continental des pays comme le Brésil ou comme le Mexique, premier et deuxième plus grand pays en termes de population dans la région, la Colombie étant le troisième, ces deux pays ont cherché beaucoup plus la voie de l'accommodement et finalement ils ont laissé Petro tout seul dans cette position de l'opposition frontale.
De tenir tête à Donald Trump sur cette question des expulsions de migrants colombiens vers la Colombie, de leur retour en tout cas, Lina Penagos, est-ce que juridiquement Gustavo Petro avait le droit de refuser à des citoyens colombiens l'accès à leur pays, l'atterrissage de ses avions ?
Eh bien non. Ça, c'est l'une des grosses questions. C'est pas possible de rejeter les personnes, les connationnels, pour qu'ils puissent regagner leur territoire, peu importe la condition pour laquelle ils ont été expulsés d'un pays tiers. Donc ça, c'est une première qu'on n'avait jamais vue. Et je voudrais revenir d'ailleurs par rapport à ce que vous vous inquiétez, vous demandez tout à l'heure concernant les expulsions qui ont été faites précédemment, et Jacobo le mentionnait tout à fait. Sous les gouvernements Biden, on a eu 24 000 personnes qui ont été expulsées. Alors que sur les gouvernements Trump, première étape, donc entre 2007 et 2021, on a eu entre 2500 et 3 000 migrants. Donc Biden a expulsé quasiment 10 fois plus des Colombiens de ce qui a fait Biden. Ce qui veut dire que ce n'est pas nouveau. Et c'est pour ça que cette réaction, cet épisode, cette mise en scène est très particulière. Les protocoles n'ont pas changé. Il y a évidemment une réponse à l'agenda de Trump qui a été dit depuis le début. Et l'un des piliers de cet agenda, c'est l'expulsion des migrants, soi-disant des criminels. Parce que dans cette nouvelle narrative, migrants égale criminels. Et donc, notamment un groupe, les fameux Tren de Aragua, c'est un groupe criminel qui opère tout au long du continent et auquel Trump souhaite s'attaquer. Or, il ne s'attaque pas vraiment aux personnes qui en font partie de ces groupes armés, mais ils s'attaquent aux personnes qui migrent pour des raisons économiques et qui...
En fait, quand il dit criminel, il parle de ceux qui sont en situation irrégulière.
Absolument. Mmh. Donc, être en situation irrégulière, nulle part dans le droit international ne dit que c'est égal à être criminel. Être en situation irrégulière suppose une régularisation de la personne. Et là, on est dans un discours qui permet l'expulsion facilement et qui associe les personnes à des criminels, ne l'étant pas. Donc, les nerfs de la guerre de pouvoir lutter contre les mafieux, contre les narcotrafiquants, contre les Tren de Aragua, est très mal pris. Parce que toutes ces personnes-là ont été expulsées, sans compter les personnes qui se sont vues retirer leur permis des résidences temporaires parce qu'ils savaient la protection du gouvernement américain, notamment des Vénézuéliens, qui vont être renvoyés au Venezuela et qui certainement vont essayer de tenter de regagner d'autres pays en Amérique latine, dont la Colombie.
On en parlera d'ailleurs tout à l'heure pour le focus. Pendant que les Colombiens suivaient cette joute verbale sur les réseaux sociaux et dans les médias, des négociations avaient en fait lieu en coulisses. Hein, toutes ces outrances verbales, Gustavo Petro disant à Trump « j'aime pas ton pétrole », lui disant « moi, je sais pas, des choses comme « j'adore l'intellectuel Noam Chomsky » et on sait que Donald Trump le déteste » ou encore que « d'accord, tu veux imposer 5% de taxes sur tes produits colombiens ». Bien, et ben moi je ferais pareil sur les produits états-uniens, etc., etc. Mais pendant ce temps, des négociations en fait avaient lieu en coulisses. Dans le détail, Lina Penagos, comment s'est conclue cette passe d'armes ? D'abord, Gustavo Petro a dit qu'il allait payer pour les expulsions. Alors on peut se dire, il a perdu sur toute la ligne. Non seulement les expulsions vont continuer, mais en plus la Colombie va payer pour une politique voulue par Donald Trump et à laquelle il s'est opposé d'abord. Donc on voit pas bien en quoi il en tire une sorte de triomphe.
Oui, c'est extrêmement curieux parce que du côté du gouvernement colombien, il y a un discours comme quoi ils ont réussi à négocier des conditions de dignité pour les personnes qui vont partir. Et donc, des conditions de dignité, ça veut dire qu'ils ne seront pas menottés à l'arrivée dans les pays, en Colombie. Mais il n'y a pas de question pour la sortie des États-Unis. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Qu'est-ce que cette équipe a gagné réellement? D'un autre côté, il y a un épisode qui est assez irréel, me semble-t-il. C'est-à-dire que Petro a dit, bon, pour pouvoir donner des conditions de dignité, nous, on va envoyer des avions colombiens qui vont récupérer notre connational, et s'il le faut, et on va envoyer un navire, un buc, pour pouvoir faire venir tous ces Colombiens. Donc la question se pose, non seulement on doit faire répatrier les personnes qui sont expulsées par le gouvernement, donc très bien pour les conditions de dignité, mais avec quel budget et de quelle manière? Et donc c'est curieux parce que Donald Trump n'a pas suivi pour imposer quelque part cette nouvelle mesure qui aurait été proposée par la Colombie. Ben voilà, on va expulser, non seulement on va expulser un certain nombre de personnes, mais les pays d'origine de cette personne vont payer pour le faire revenir dans leur territoire. C'est une première.
Et sur quel budget, Jacobo Grajales, parce que Gustavo Petro, président de gauche, a plutôt débloqué des fonds pour des politiques sociales. Est-ce qu'il va devoir prendre sur ces politiques sociales pour financer cette lubie de Donald Trump? Bien sûr, on peut débattre du mot lubie, je l'ai employé peut-être un petit peu trop vite, mais en tout cas, cette demande de Donald Trump de rapatrier des Colombiens sur le sol colombien.
Oui, alors je pense que personne s'est véritablement posé la question de comment ils allaient faire pour payer tout ça. Je pense que le but du gouvernement colombien est autre. L'idée, ce qui a été mis en avant par Petro, mais surtout par ses collaborateurs, qui ont tout de suite cherché en fait à faire baisser la pression, à mobiliser par exemple des réseaux d'industriels, de commerçants colombiens, qui sont beaucoup plus proches en fait de la droite, pour essayer d'influencer l'agenda états-unien dans le sens, disons, de la négociation. Leur idée, c'est plutôt de mettre en place ce qu'ils appellent un protocole, c'est-à-dire des règles qui garantiraient un minimum de dignité aux personnes qui sont expulsées. L'une des demandes, c'est par exemple le fait de ne pas les expulser dans des avions militaires dans lesquels il n'y a pas les conditions de confort pour faire un vol de 5 ou 6 heures, mais plutôt dans des avions commerciaux, ce qui était en fait la règle sous Biden. L'une des nouveautés, on parlait tout à l'heure de la nouveauté, l'une des nouveautés, c'est le fait de mettre les gens dans des avions militaires dans lesquels on transporte de la marchandise. Donc voilà, cette idée de protocole se vise, disons, à inscrire les choses dans les rapports diplomatiques plutôt que de faire ça sur X. L'idée, c'est aussi en fait de jouer sur des divisions à l'intérieur du camp trumpiste. Aujourd'hui, sur les questions latino-américaines, on a deux têtes. Il y a Marco Rubio, donc secrétaire d'État, et il y a Mauricio Claver Caron, qui est le conseiller spécial pour Donald Trump pour l'Amérique latine. Il se trouve que les journalistes qui ont travaillé sur cette question sont plus ou moins d'accord pour dire que Claver Caron était pour une position davantage de négociation pour faire baisser la tension, pour faire baisser la température, alors que Rubio, qui supporte pas Petro, puisqu'il est d'un anticommunisme primaire, voulait aller au clash.
Je pense que l'écrasante majorité des habitants de la Colombie, un pays que je connais très bien, n'aime pas le président Petro. Je veux dire par là que s'il y avait des élections aujourd'hui, il les perdrait. Il est impopulaire en Colombie. Cela ne dépend pas de nous. Les gens là-bas vont voter et ils décideront de qui ils veulent pour les diriger. Mais je pense que beaucoup de gens dans leur classe affaires se sont dit « Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est absurde. C'est normal que nous expulsions des gens en Colombie de la même façon que nous le faisons pour tous les pays du monde. D'ailleurs, s'il y a des immigrants américains illégaux dans d'autres pays, nous devrions accepter qu'ils reviennent ici. »
Marco Rubio, le secrétaire d'État Donald Trump, qui décidément cette équipe a beaucoup d'avis sur l'impopularité des chefs d'État, que ce soit Volodymyr Zelensky en Ukraine ou Gustavo Petro ici en Colombie. Est-ce que Gustavo Petro, Lina Penagos, est le premier président colombien à marquer vraiment une telle distance avec les États-Unis pour se voir aujourd'hui attirer les foudres de l'administration de Donald Trump?
Complètement. On a eu depuis le début avec les États-Unis une relation, on va dire, plutôt privilégiée. D'ailleurs, les États-Unis ont été clés des investissements comme par exemple celui de Plan Colombia qui a permis de renforcer les forces militaires et qui ont par la suite permis aux différents gouvernements, que ce soit Pastrana, Uribe ou encore Santos, de pouvoir réduire les FARC, pouvoir entamer les conditions pour se mettre à table et pouvoir négocier les accords.
Les États-Unis ont versé beaucoup d'argent à la fois pour la lutte contre les guérillas de gauche, d'extrême gauche, mais aussi contre la lutte, pour la lutte contre le narcotrafic.
Complètement. Et aussi d'autres aides qui viennent de l'aide à la coopération à travers des USAID qui maintenant n'existent plus. Et donc, évidemment, c'est la première fois qu'on a ces discours qui est, on va dire, je dirais pas anti-américain parce qu'il n'y a pas un discours anti-américain, il y a un discours anti-Trump et il y a des raisons pour les faire. Effectivement, les manières ne sont pas les manières qu'on attend, c'est la fin de la diplomatie, on n'a pas des amis, on n'a que des intérêts. Et ça, c'est clair. Après, ce qui est intéressant à voir, c'est comment cela va venir plutôt à l'encontre d'un projet politique très clair, de Gustavo Petro. Il doit assurer la suite. Que ce soit, je ne pense pas sur sa personne, mais sur quelqu'un d'autre qui incarne ses idées.
La fin de son mandat, c'est cet été, hein, c'est ça ?
La fin de son mandat, c'est en 2026.
26, l'été prochain.
Il reste encore 17 mois de travail, mais bon, ces derniers 17 mois, ce ne seront pas certainement des mois des concrétisations de certaines actions, mais plutôt des préparations pour la suite. Donc avant, on n'avait pas eu cela. C'est la première fois qu'on les voit, et de la manière, les formes comptent énormément.
Jacobo Grajales, est-ce que la classe politique en Colombie a toujours été divisée sur cette question de la relation à Washington ? Est-ce que c'est un marqueur entre la droite et la gauche ?
Justement, non. Contrairement à beaucoup de pays de la région où un discours souverainiste a un certain ancrage, on peut penser par exemple au Mexique, où voilà, la question de l'indépendance et de tenir tête aux grands voisins du Nord a toujours été un leitmotiv mobilisateur. En Colombie, il y a plutôt un accord transpartisan historique sur l'importance de la bonne relation avec les États-Unis. Et il faut remettre ça un petit peu dans le contexte. Les relations, si on veut remonter très loin, les relations au départ n'étaient pas si bonnes que ça, puisque là, les États-Unis ont favorisé ont soutenu l'indépendance du Panama en 1903, qui était auparavant un département colombien. Mais dès les années 1910, la classe politique colombienne se met d'accord sur une doctrine de relations internationales que l'on a appelée à l'époque le fait de regarder vers le nord. Regarder vers le nord, c'est l'idée que le partenaire à la fois commercial, diplomatique, politique privilégié du pays devait être les États-Unis. Cette doctrine, elle a été mise en cause à quelques reprises dans l'histoire, dans les années 70 par exemple, où certains hommes politiques, notamment un président, avaient mis en avant l'idée que il fallait aussi regarder vers ses voisins.
Ernesto Samer, c'est ça, qui était
encore avant, López Mikkelsen, qui était quelqu'un qui avait essayé de mobiliser autour de l'idée de d'intégration régionale. Vous avez mentionné le président Samper. Lui, pour d'autres raisons, il avait eu des problèmes avec l'administration antidrogue états-unienne, puisque il y avait eu des informations plutôt crédibles qui indiquaient que de l'argent des cartels de drogue était rentré dans sa campagne pour la présidence. Et donc, il y a eu quelques moments de tension dans l'histoire, mais très rares, et plutôt un accord transpartisan autour de l'importance de cette relation. C'est depuis les années 90, pour le coup, cette relation n'avait jamais été mise en cause. Lina Penagos le rappelait, l'importance du soutien aux forces armées colombiennes par les États-Unis a joué un rôle extrêmement important dans la structuration de la politique de sécurité colombienne. L'aide civile aussi, la Colombie bénéficiait jusqu'au mois de janvier, où tous les fonds de l'aide internationale dans le monde, sauf pour Israël et pour l'Égypte, ont été gelés. Mais la Colombie bénéficiait d'environ 600 millions de dollars par an de USAID, de l'aide étrangère états-unienne. Ce qui est entre 8 et 10 fois plus que l'Union européenne, par exemple.
Une aide distincte de celle qui était apportée à la lutte contre le narcotrafic.
Oui, tout à fait. Il y a
une de budget entre guillemets.
Vous avez à la fois une aide financière et logistique pour la lutte contre le narcotrafic, mais il y a également énormément de projets de développement rural, de projets sociaux, toute la question du financement des politiques liées à la sortie de conflit, à l'accord de paix avec les FARC. Tout ça a été très massivement financé par l'aide internationale et USAID était de loin le premier bailleur.
Et là-dessus, Lina Penagos, il a toujours été une évidence que la Colombie et les États-Unis coopèrent dans leur lutte contre la drogue, contre le trafic de drogue.
Oui, parce que la drogue a été à la une de l'agenda de ces deux pays depuis le début, depuis les années 70, plutôt particulièrement, et puis dans les années 90. Rappelons-nous, il y avait cette politique de Nixon, c'est la drogue, il faut lutter contre la drogue. Et cette guerre contre les drogues va façonner l'agenda de ces deux pays. Et donc, la Colombie a été toujours stratégique, puisque c'était la Colombie, l'un des grands producteurs, il est encore, et on voit bien qu'après la signature des processus de paix, il y a une explosion de la culture de la coke dans les pays. Donc, l'agenda de nos jours reste toujours ancré à la question du narcotrafic et à l'explosion de la culture et à cette consommation qui est loin de descendre. Bien au contraire, on a 23 millions de consommateurs dans le monde. Rien qu'en France, on a 1 million. Donc, ça veut dire que c'est un marché qui est florissant. Alors, c'est très intéressant de voir comment ces relations évoluer. Parce que si on revient, par exemple, dans les années 2008-2010, où toute l'Amérique latine, ou quasiment toute l'Amérique latine, était à gauche, il n'y avait que la Colombie qui restait, soi-disant, alignée avec les États-Unis. Et d'ailleurs, ça a été tellement important que c'était les points de marcation d'un éloignement avec le Venezuela, parce qu'il y avait justement ce Venezuela, cette idée de faire un poids contre les Américains, tout en alliant les pays du Sud, chose à laquelle la Colombie s'est opposée. Et la Colombie a été toujours très en ligne avec les États-Unis. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas le moment justement d'échanger. Je crois que cette crise justement montre déjà une avancée importante des entrepreneurs qui cherchent d'autres marchés. Il n'y a pas que les États-Unis, ça reste quand même très important. Je le disais tout à l'heure, 30% des exportations colombiennes vont vers les États-Unis. Donc ce n'est pas si facile que ça qu'on peut trouver 30% de remplacement ailleurs dans le monde pour les différents produits colombiens.
Il était question d'ailleurs que Gustavo Petro, Jacobo Grajales revoient les accords de libre-échange qui lient la Colombie aux États-Unis. C'était même un des sujets de sa campagne en 2022, sa proposition de remettre en cause cet accord qui date de 2012 et qui interdirait, par exemple, c'est ce qu'il dit, à la Colombie de produire du maïs local. Où en est cette question de remettre en cause les accords de libre-échange Colombie-États-Unis ?
Alors, effectivement, beaucoup de pays en Amérique latine ont signé des traités de libre-commerce avec les États-Unis, beaucoup de pays dans le monde en général, et ces traités de libre-commerce, bien souvent pour des pays du Sud comme la Colombie, ont eu un impact très négatif sur la souveraineté alimentaire de ces pays, puisque les États-Unis sont une puissance économique sur à peu près tous les secteurs de l'économie, mais aussi sur l'agriculture.
On en parlait d'ailleurs hier pour Haïti, la façon qu'ont eu les États-Unis d'imposer à Haïti des droits de douane très 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 élevés sur le riz, ce qui a tué la production de riz. Mais alors pour la Colombie...
Tout à fait, ça a eu essentiellement le même effet sur une série de productions qui sont en plus de productions de l'agriculture paysanne. Vous avez mentionné le maïs, le poulet, les œufs ont subi un sort similaire. Et donc, dans le discours de la gauche depuis longtemps, et c'est pas uniquement Gustavo Petro, il y a l'idée de remettre en cause cette dépendance alimentaire, en fait, qui est créée par les règles du commerce international, puisque la Colombie aurait tout à fait les moyens, à la fois en termes humains et environnementaux, d'être parfaitement souveraine sur le plan alimentaire. L'opposition donc, ou plutôt l'idée d'une renégociation du traité de libre commerce, c'était dans les cartons donc depuis un moment dans le programme de la gauche. Pour l'instant, il y a eu une petite victoire qui s'est négociée, qui a abouti dans les tout derniers jours de l'administration de Joe Biden. Il y a eu ce qu'on appelle en relation commerciale internationale une note interprétative du traité de libre commerce qui a déterminé le fait que les investissements états-uniens en Colombie doivent respecter la réglementation colombienne en matière notamment sociale et environnementale. Alors ça peut paraître étonnant d'avoir besoin d'une note interprétative pour dire quelque chose qui peut paraître évident, mais en réalité, dans ces traités de libre-commerce, il y a aussi des règles sur l'investissement, et bien souvent ces règles sur l'investissement prévoient que si un gouvernement fait évoluer par exemple sa réglementation environnementale pour assurer une meilleure protection pardon, de l'environnement, l'entreprise qui se sentirait lésée pourrait amener en justice le gouvernement, non pas devant une juridiction locale, colombienne en l'occurrence, mais devant une juridiction internationale. Et donc cette note interprétative, en quelque sorte, protège le gouvernement colombien et lui donne la possibilité de renforcer ses contrôles et ses réglementations environnementales et sociales et de ne pas risquer donc de devoir payer des pénalités astronomiques qui seraient décidées par une juridiction internationale. Donc c'est une conquête et c'est une conquête à saluer.
Une conquête à saluer, d'autant que la production états-unienne de maïs, de poulet aussi, écrase la production colombienne. Donc là-dessus, Gustavo Petro a réussi à faire bouger quelques lignes aussi, puisque le pays s'érige aujourd'hui en modèle de protection de la diversité. Gustavo Petro n'a pas hésité à faire annuler un partenariat de la compagnie nationale Ecopetrol avec une société américaine états-unienne parce qu'elles allaient produire ensemble 90 000 barils de pétrole par jour, notamment par fracturation hydraulique. Donc il y a comme ça des avancées en matière commerciale, en matière de lutte contre la drogue. En revanche, et ces millions de dollars que versent les États-Unis chaque année pour aider la Colombie à lutter contre ce trafic, et bien là-dessus, Gustavo Petro a l'air plutôt de vouloir continuer la coopération en la matière.
Nunca me he negado sobre la base de negociar en pie de igualdad à llegar a acuerdos con Estados Unidos o a desacuerdos.
Je n'ai jamais refusé des négociations sur un pied d'égalité pour parvenir à des accords avec les États-Unis. Aujourd'hui, je suis prêt à parler aux États-Unis en face à face. Nous pouvons reparler du trafic de drogue. Je veux connaître la politique de Trump en la matière. La drogue fait 1 million de morts dans notre pays et la Colombie ne reçoit aucune aide. On s'entraide pour que la cocaïne ne rentre pas aux États-Unis avec tous les effets que cela peut avoir sur leur société et pour que les propriétaires de cocaïne ne détruisent pas la démocratie et la vie en Colombie. C'est une coopération, ce n'est pas une aide. Maintenant, si vous voulez modifier cette politique, parlons-en. Je suis ouvert à des hypothèses et à des approches différentes de ce qui a été fait jusqu'à présent.
Gustavo Petro, dans un entretien récent, juste après la crise diplomatique avec Donald Trump, Lina Penagos, pas une aide donc, mais une entraide que cette lutte contre le narcotrafic entre la Colombie et les États-Unis. Dans quelle mesure, lui, Gustavo Petro, voudrait pouvoir influencer les États-Unis dans la façon dont l'aide est dirigée, sur la méthode en fait de la lutte contre la drogue?
Je pense que vous avez touché un mot essentiel, la méthode. Et je crois que c'est un élément qui est complètement absent aujourd'hui. Il n'y a pas de méthode du côté de Petro. Il y a un discours. Mais la méthode n'est pas là. Depuis les mois de janvier, fin janvier, on a dans la région du Catatumbo, qui est frontalière avec le Venezuela, plus de 48 000 personnes qui sont déplacées par une incursion de ELN, dont les groupes guerrilleros qui restent encore actifs, non seulement en Colombie, mais notamment au Venezuela. Il y a eu un déplacement de 2500 personnes, des troupes qui ont fait partie de l'ELN, depuis la région de Arauca jusqu'au nord de Santander, donc pour regagner Tibou, dans toute cette région du Catatumbo, qui est une forêt extrêmement dense et complexe d'accès. Donc 48 000 déplacés et une situation qui est explosive, parce que le nombre de cultures qui sont des cocaïnes, des feuilles de coca, pardon, et les laboratoires de cocaïne qui sont présents dans la zone sont énormes. Donc c'est curieux quand on entend Gustavo Petro de dire il faut coopérer, il faut travailler ensemble, alors que les discours ne s'accompagnent pas d'une méthode. Il n'y a pas des actions concrètes qui permettent de voir des résultats pour réduire les nombres, non seulement des cultures, mais des laboratoires, mais des trafics. Et c'est tout simplement parce qu'on parle d'une grosse multinationale. C'est une grande entreprise multinationale qui va au-delà de la Colombie, qui a des liens partout dans le monde. Et le gouvernement américain n'est pas du tout dans la même longueur d'onde. La question est très simple, ce qui est narcotrafic, ça veut dire les trains d'Aragua, il y a des dealers, point barre. Et il faut les chasser, c'est tout.
Et là-dessus, Gustavo Petro n'a rien à faire valoir. C'est-à-dire qu'il a promis une paix totale, il négocie avec tous les groupes armés, mais pour l'instant sans résultat. Donc il ne peut pas arriver à la table des négociations ou des discussions éventuelles avec les États-Unis, Jacobo Grajales, en disant « Regardez, ça marche bien, donc continue ensemble dans cette voie-là ».
Effectivement, il n'a pas beaucoup d'arguments à faire valoir. Il a même un gros problème qui va arriver en septembre, puisque chaque année au mois de septembre, il y a une évaluation de la politique anti-drogue de la Colombie qui est faite par les États-Unis dans le cadre des accords bilatéraux de coopération d'aide, c'est-à-dire si la Colombie échoue dans cette évaluation, on va lui couper ces aides-là. Bon. Pour l'instant, elles sont gelées, mais c'est quand même quelque chose qui pourrait avoir des impacts. Et en plus, ça peut venir avec des sanctions commerciales, cette procédure que l'on appelle de certification. Le problème, c'est que dans la relation bilatérale autour de cette coopération sécuritaire, l'indicateur clé depuis plus de 20 ans a toujours été la surface de culture de feuilles de coca. Si elle monte, on considère que le gouvernement colombien n'a pas fait son boulot. Si elle diminue, on considère que les efforts ont été porteurs. C'est un indicateur extrêmement réductif, puisque il gomme toute une diversité de dynamiques sociales, économiques autour de la production de cocaïne. Il fait peser en plus l'essentiel du poids de la répression sur plutôt les premiers échelons et notamment sur les paysans, ce qui est la critique traditionnelle de la gauche colombienne sur la politique anti-drogue. Mais c'est l'indicateur qui est utilisé. Or, l'année dernière, enfin en 2023, il y a eu une augmentation de 9% de la surface plantée en feuilles de coca, ce qui va probablement valoir une décertification au gouvernement colombien au mois de septembre.
Alors, et donc Gustavo Petro, lui, dira très certainement, Lina Penagos, oui, mais il faut légaliser la consommation et je n'ai pas le même indicateur que vous pour, enfin en tout cas, ça sera presque une discussion de sourds.
Oui. Après, c'est pas une question, la légalisation, c'est pas la question de Gustavo Petro. Juan Manuel Santos avait déjà commencé ces discours-là et en avait énormément insisté, puisque la guerre contre les drogues est une guerre qui est un échec total. Et est un échec total parce que la culture, comme bien le disait Jacobo Grajales tout à l'heure, la culture de la feuille de coke ne se réduit pas parce que la consommation continue d'augmenter et ça va pas s'arrêter parce qu'on sait que cette. Et marché dépend des gros trafics qui sont alliés les uns aux autres. La question migratoire est aussi partie de ces grands marchés. Donc, il faut savoir qu'il y a pour l'instant qu'une seule voix qui pourrait effectivement répondre à la manière comment on va traiter les sujets. Les sujets, c'est la légalisation. Donc, c'est pas une question nouvelle. C'est une question qui a déjà été annoncée précédemment et largement par le président Santos, et qui a été repris...
De centre-droit.
De centre-droit, exactement, et qui a été repris par Gustavo Petro, sans beaucoup trop d'écho au niveau international. Et ça, c'est l'une des questions qu'on peut se poser. Que faire pour la suite? Quelle est la stratégie? Et c'est là où je, malheureusement, ne vois pas très clairement une stratégie claire, non seulement pour pouvoir réduire ces fléaux, mais pour pouvoir renforcer des forces militaires qui sont extrêmement réduites et qui sont extrêmement impactées, non seulement parce qu'il y a moins d'argent, mais parce qu'il y a moins de personnes qui sont disponibles, entraînées à participer de ces actions. Et pourquoi ? Il y a bien une raison sociale derrière qui fait partie du gouvernement Petro, de son programme qui est contre toute cette question sécuritaire, mais qui, dans un pays qui est fortement pénalisé par la question de la drogue, demande une méthode, une stratégie qui n'existe pas.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. De aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor, vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío y el calor.
De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas, pero andamos happy en comparsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente, y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente. Hace el día esté soleado, te la pasas en guayabao.
Todo el mundo toma whisky,
ajá.
Todo el mundo anda en moto,
ajá.
Todo el mundo tiene carro,
ajá.
Menos nosotros,
ajá.
Todo el mundo come pollo,
ajá.
Todo el mundo está embambado,
ajá.
Todo el mundo quiere irse de aquí, pero ninguno lo ha logrado.
sobrevivimos, vengo yo. De tanto luchar siempre con la nuestra no salimos, vengo yo. De aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor, vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío, el calor.
Nos invités connaissaient et aiment beaucoup manifestement cette chanson de Shock Keep Town, qui est un groupe qui vient de Colombie, dans la région du Chocó, la plus pauvre du pays dans le Nord-Ouest. Vous écoutez Culture Monde, c'est le dernier épisode de notre série sur la Caraïbe dans l'ombre des États-Unis. Aujourd'hui, ces pays qui concluent avec Donald Trump des accords pour rapatrier chez eux des ressortissants qui vivaient aux États-Unis de façon irrégulière. Alors la Colombie, très longtemps alliée de Washington, mais aussi, beaucoup plus inattendue, le Venezuela.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Porque nosotros sí, le decimos a nuestros migrantes, queremos que vuelvan.
Nous disons à nos migrants que nous voulons qu'ils reviennent.
Queremos que vuelvan para que sean felices aquí.
Nous voulons qu'ils reviennent pour qu'ils soient heureux ici, pour qu'ils puissent venir créer des entreprises, travailler et construire sur leur terre. Ce qu'ils font sur leur terre reste sur leur terre. Elle sera là pour vous, pour vos enfants, pour que vous puissiez venir chanter, danser, faire la fête, travailler, étudier, construire leur patrie. Nous voulons qu'ils reviennent. Si on ne veut pas d'eux aux États-Unis, nous, nous voulons d'eux, avec amour.
La déclaration d'amour du président du Venezuela à ses ressortissants en exil, en particulier ceux qui se trouvent aux États-Unis, lesquels veulent justement, sous Donald Trump, renvoyer aussi ces immigrés chez eux. Très rare exemple d'une vision commune et partagée entre Nicolas Maduro et les États-Unis, dans un contexte de confrontation presque structurelle. Bonjour Christophe Ventura.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, responsable du programme Amérique latine et Caraïbes. Alors, il se trouve que le 10 février, deux avions vénézuéliens ont rapatrié 190 migrants vers le Venezuela à la suite d'un accord conclu entre Donald Trump et Nicolas Maduro. Est-ce que, comme pour la Colombie, les vols d'expulsion de migrants vers les Venezuela existaient déjà avant, sous Joe Biden ?
Non, non. Là, c'est un événement qui est directement lié à l'arrivée à la Maison Blanche, au retour de la Maison Blanche, plus précisément de Donald Trump. Ce mouvement s'intègre effectivement dans les prémices d'une négociation qui va continuer d'ailleurs, hein, entre Caracas et Washington. Mais en tout cas, non. Là, c'était un mouvement nouveau.
Avec des avions vénézuéliens ou états-uniens, parce que dans le contexte des sanctions imposées par les États-Unis au Venezuela, ça compte ?
Tout à fait. Alors, c'est ça qui est un peu cocasse, si on veut bien mettre des guillemets à ce terme, c'est que les États-Unis dérogent eux-mêmes à leurs propres règles, puisqu'ils ont accepté sur leur territoire des avions qui, normalement, n'ont pas le droit d'y être du fait des sanctions qui pèsent sur le Venezuela. Et donc, c'était des avions vénézuéliens qui ont pu aller sur le tarmac états-unien pour, organiser ces vols de retour des 190 personnes en question.
Donc, elles ont atterri, ces personnes, à l'aéroport du nord de Caracas. Dans quelles conditions ont-elles volé ? Nicolas Maduro, qui parle régulièrement du retour de ses ressortissants, il a monté un plan qui s'appelle « Retour à la patrie », il s'adresse régulièrement à eux pour dire « Revenez, on s'occupera bien de vous ». Est-ce qu'il a exigé que les passagers soient traités dignement, comme l'a fait Gustavo Petro pour la Colombie ?
Alors déjà, il faut signaler qu'il y a déjà un mouvement de retour des migrants vénézuéliens qu'on peut noter depuis, la période post-Covid. Depuis 2022, il y a plutôt un mouvement de retour des Vénézuéliens qui étaient partis. Je rappelle que entre 5 et 7 millions d'entre eux ont quitté le pays entre 2015, grosso modo, et justement 2022. Ça a été la période où les migrations ont été très importantes. On peut pas dire que les Vénézuéliens étaient bien reçus là où ils sont partis, en particulier en Amérique latine, puisque comme toujours avec les histoires de migration, c'est d'abord des migrations voisines qui constituent le gros du phénomène. Donc les Vénézuéliens sont partis d'abord en Colombie, d'abord au Chili, d'abord au Brésil, etc. Et ils ont été victimes d'un accueil souvent très très difficile dans des pays dont les systèmes sociaux sont très fragiles, surtout dans le contexte de crise économique et post-Covid encore plus. Donc tout ça a produit aussi pas mal de racisme anti-vénézuélien partout. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y avait déjà un mouvement de retour vers le Venezuela à partir du moment où le Covid étant terminé, il y a une relance relative de l'économie vénézuélienne et les gens sont commencés à revenir. Donc le contexte des avions vénézuéliens qui reviennent avec des 190 Vénézuéliens à bord, On n'a pas d'informations particulières sur les exigences ou pas de Monsieur Maduro sur les conditions de retour. Il est clair que cette affaire fait partie, je vous disais, des préconditions d'une négociation avec Washington sur les relations politiques entre les deux pays. Il est bien entendu que ces deux avions, comme les gens qui ont été à Guantanamo du cartel Tren de Aragua, tout ça fait partie malheureusement aussi d'une forme de communication, un petit peu d'un show qui vise à montrer que aujourd'hui Nicolas Maduro et Donald Trump reprennent langue.
On en parlait avant-hier d'ailleurs dans l'émission sur Cuba, des migrants expulsés par les États-Unis vers Guantanamo, territoire américain, à Cuba. Là, pour le Venezuela, c'est difficile d'imaginer la façon dont se sont déroulées les discussions entre les États-Unis et Nicolas Maduro. Est-ce que les interlocuteurs vénézuéliens étaient les mêmes que ceux qui avaient rencontré l'équipe de Joe Biden quand il s'était agi de discuter une levée partielle des sanctions sur le pétrole vénézuélien au début de la guerre en Ukraine? On ne sait pas. En revanche, Christophe Vantois, est-ce que Nicolas Maduro peut en tirer un quelconque bénéfice de cette façon qu'il a eu d'accepter le retour au Venezuela de deux fois 95 personnes renvoyées des États-Unis?
Bah écoutez, en tout cas, on voit bien les termes de cette discussion qui a été engagée entre Washington et Caracas. C'est justement l'hypothèse, le scénario qui avait été élaboré un peu avant la prise de fonction de Monsieur Trump, c'est-à-dire en gros un deal tout à fait transactionnel et pratico-pratique, c'est-à-dire le fait d'accepter de reprendre et de réaccueillir des migrants vénézuéliens aux États-Unis. Ça c'est la première chose, ce qui permet à Trump, si vous voulez, de montrer à sa base électorale qu'il fait ce qu'il dit et qu'il obtient des résultats dans ses objectifs en matière de déportation, comme ils disent aux États-Unis, des migrants latino-américains sur place. Donc ça c'est le premier élément qui contente Donald Trump. En échange de quoi, il y a quoi? Bah il y a un, le fait que finalement Donald Trump, sans se prononcer sur le fond de la question de savoir s'il reconnaît politiquement la réélection de Monsieur Maduro, eh ben en tout cas fonctionne de manière concrète avec le pouvoir de Caracas et son gouvernement tel qu'il est, donc celui de Monsieur Maduro, qu'il ne reconnaît pas de manière appuyée Monsieur Edmundo González, qui est celui qui a perdu l'élection du 28 juillet. Donc c'est un mode opérationnel qui permet en fait que les relations entre Washington et Caracas existent. Et que de fait, il y a une reconnaissance de facto de M. Maduro comme à la tête de l'État vénézuélien. Et puis, troisième point, tout à fait aussi opportuniste du point de vue de Washington, le fait que, et on l'a bien remarqué, M. Trump n'a pas remis en cause les concessions accordées à Chevron d'exploitation pétrolière au Venezuela, qui ont été mises en place par son prédécesseur Joe Biden. Donc, Trump n'a pas remis en cause cela. Il faut savoir que ces concessions pétrolières sont renouvelées automatiquement mensuellement. Il n'y a pas un décret présidentiel pour les arrêter. Donc, en fait, c'est tous les mois que M. Trump peut, le cas échéant, revenir sur cette situation. Donc, c'est quand même un levier dont il dispose face à Maduro. Tous les mois, il pourrait arrêter cette concession, mais on a remarqué qu'il ne l'a pas fait et qu'il laisse Chevron exploiter le pétrole vénézuélien. Exploitation du pétrole vénézuélien qui permet, de manière paradoxale là aussi, à l'État vénézuélien de toucher en fait des royalties en fait sur ce pétrole et d'abonder le budget de l'État vénézuélien. Et tout ça, si vous voulez, c'est aujourd'hui l'état des relations entre Caracas et Trump. Et on voit bien que Donald Trump, pour le moment, a décidé de fait, et même si son aile néoconservatrice avec Marco Rubio et d'autres aimeraient le changement de régime à Caracas, ce n'est pas la décision de Donald Trump aujourd'hui, c'est plutôt de maintenir cet état de choses. Et pour M. Maduro, c'est finalement un gain tout à fait politique, tout à fait majeur, parce qu'il n'est pas confronté à la pression maximale, à des tentatives de déstabilisation directe auxquelles il a pu faire face par le passé. Et donc aujourd'hui, les deux s'entendent sur cette base-là.
Avant, Donald Trump, lors de son premier mandat, avait reconnu comme président le principal opposant de Nicolas Maduro, Juan Guaido. Donc tout ça est derrière eux manifestement, et c'est toujours très surprenant d'entendre de la part d'un président qui se réclame du chavisme, donc Nicolas Maduro, de faire affaire aujourd'hui avec Donald Trump, en tout cas d'espérer un nouveau départ dans les relations bilatérales. Merci beaucoup Christophe Ventura d'avoir été avec nous pour en parler, directeur de recherche à l'IRIS, où vous êtes responsable du programme Amérique latine et Caraïbes. Peut-être un mot, Lina Penagos, comme vous vous connaissez très bien à la fois la Colombie et le Venezuela et cette zone frontalière par laquelle passent des migrants chaque jour. En fait, les questions qu'on vient de soulever avec Christophe Ventura et qu'on soulevait en début d'émission avec vous, les États-Unis qui renvoient vers la Colombie et le Venezuela des migrants, concernent les deux pays. La Colombie va être très vite concernée, elle aussi, par les Vénézuéliens qui sont aux États-Unis.
Très vite concerné. Et d'ailleurs, je me permets juste une précision par rapport à ce que notre collègue vient de dire. Edmundo González s'est fait voler les élections au Venezuela. C'est pas une élection transparente. D'ailleurs, la Colombie, c'est pour ça que c'est extrêmement complexe, parce que la Colombie n'a jamais dénoncé ces élections dans la manière dans laquelle elles se sont produites. Donc, ça me paraît très important de les remarquer. Maintenant, la question des migrations est extrêmement importante, puisque vous allez avoir toutes ces personnes qui seront expulsées des États-Unis, qui avaient déjà la possibilité de rester dans les pays légalement parce qu'ils cherchaient une reconnaissance politique à leurs conditions. Ils étaient des réfugiés politiques qui ont quitté le Venezuela et qui doivent revenir dans les pays. Sous quelles conditions, on ne sait pas. Donc certainement, ils vont chercher à aller en Colombie. La Colombie, qui a déjà plus de 2 800 personnes qui viennent du Venezuela, qui se sont installées en Colombie et qui ont refait leur vie depuis, notamment depuis 2008. Et à tout cela, on va ajouter la condition très difficile des plus de 600 000 personnes, dont 70% vénézuéliennes, qui essayent de regagner l'Amérique centrale, et donc en cherchant les États-Unis, par la voie du Darién, donc cette forêt.
Cette grande forêt très touffue.
Exactement.
Très dense.
Et qui met en question un autre drame humanitaire de quel on parle assez peu, mais qui, justement, nous met en question de que faire. Il n'y a pas seulement la question des migrations, juste parce qu'il y a cette migration sud-sud qu'elle évoquait tout à l'heure notre collègue très justement, mais il y a aussi tous les éléments qui viennent à côté, dont les grands trafics qui passent par ces grandes frontières des plus de 2 200 kilomètres.
En tout cas, c'est une sorte de bouchon qui débouche justement sur l'état du Panama dont on parlait lundi et qui permet de gagner les États-Unis, en tout cas de marcher vers le nord. Peut-être un tout petit mot de conclusion, comme on fait cette émission, cette série sur la Caraïbe dans l'ombre des États-Unis. On a compris tout au long de toutes les émissions que beaucoup regardaient ailleurs. On est dans le cadre d'un monde qui a changé, qui est devenu multipolaire. Les alliances sont diverses en fonction des intérêts de chacun. Est-ce que la Colombie s'est tournée vers d'autres partenaires? Jacobo Grajales, la question de la Chine, notamment, m'importait pour cette dernière minute.
Oui, alors c'est surtout la Chine qui s'est tournée vers l'Amérique latine depuis quelques années. Lundi, vous en parliez justement sur l'importance de ce lien entre la Chine et le Panama à l'origine, en fait, de la crise diplomatique que l'on a vue. Dans le cas de la Colombie, il y a effectivement une présence forte de la Chine. L'ambassadeur chinois s'est d'ailleurs empressé de se prononcer sur la même plateforme X à la suite donc de cette crise, de rappeler que la Chine était une grande amie de la Colombie et qu'elle soutenait le gouvernement colombien. Mais le problème, c'est que bon, la Chine, c'est un partenaire commercial important pour la Colombie. Elle exporte beaucoup vers la Colombie, elle importe un peu, c'est le troisième importateur de marchandises en origine de Colombie, surtout du charbon, mais il y a tout un tas de marchandises qui sont importantes pour la balance commerciale colombienne qui vont vers les États-Unis, qui trouveront pas de débouché en Chine. On a parlé des fleurs, on a parlé des avocats, et vous changez pas un partenaire commercial pour un autre de façon aussi simple.
Même si Gustavo Petro a juré que les Chinois allaient se mettre à adorer le cacao colombien et l'avocat colombien et à en importer massivement. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Jacobo Grajales, Lina Penagos, nous mettons sur le site de Culture Monde les références de votre ouvrage, Jacobo Grajales, Capitalisme agraire, guerre et paix en Colombie, et de votre article plus récent, Lina Penagos, Reconfiguration institutionnelle sur la frontière colombo-vénézuélienne, frontière de tous les trafics, dans la revue Caravelle. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Décidément, on prononce beaucoup son nom à ce président états-unien. Ça fait un mois que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche. Les résistances s'organisent, Catherine, alors que le président républicain poursuit son agenda politique au pas de charge.
Donald Trump avance à une vitesse vertigineuse sur sa to-do list, titre le Boston Globe. Sur sa liste de choses à faire, supprimer les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion, réduire les droits des personnes transgenres, licencier des milliers d'employés fédéraux. Le président a donné à Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, non élu et né en Afrique du Sud, le pouvoir de s'attaquer à l'administration fédérale, énumère le Boston Globe. Mais dans ce mois qui donne le tournis au Los Angeles Times et au Guardian, la résistance commence à s'organiser, note la NPR. Et il était temps, selon Vox et John Oliver, qui revient sur l'actualité de la semaine à la télévision dans Last Week Tonight sur HBO. Alors si les démocrates cherchent encore qui pourrait mener la charge contre Donald Trump, s'étonne le site d'information Sémaphore. Pour le magazine Newsweek, c'est Alexandria Ocasio-Cortez, démocrate progressiste élue à New York, qui incarne l'avenir du Parti démocrate. Elle propose de parler plus directement à la classe ouvrière, même si elle reconnaît que pour l'instant, si l'on ouvre le capot de la voiture démocrate, on voit surtout une lutte de pouvoir, des tiraillements face à la Maison-Blanche. Faut-il ou non approuver les nominations au sein du gouvernement ? Bernie Sanders se dit prêt, lui, à travailler avec la Maison-Blanche à la réduction des taux d'intérêt et des prix des médicaments, mais il s'oppose aux allègements fiscaux pour les riches et aux expulsions massives d'immigrés, rapporte Fox News. Tandis que certains démocrates, élus sur des terres républicaines, sont prêts, eux, à soutenir Donald Trump, indique le site Sémaphore.
La résistance s'organise donc au sein de la population.
Sur la question migratoire notamment, avec les travailleurs agricoles, leurs patrons et d'autres citoyens américains main dans la main ou plutôt côte à côte dans les manifestations comme à Homestead en Floride, munis de drapeaux mexicains ou salvadoriens, des enfants d'immigrés clandestins sans papier ont scandé « Ne mordez pas la main qui vous nourrit ». Le magazine économique Forbes rappelle que les sans-papiers qui font vivre l'industrie agricole aux États-Unis, un secteur de plus d'un milliard de milliards de dollars, ces immigrés clandestins représentent près de la moitié de la main-d'œuvre, souligne aussi le Los Angeles Times et ABC News, en Floride. Alors que le gouverneur Ron DeSantis vient d'autoriser la patrouille routière à arrêter des conducteurs pour leur demander leur statut migratoire, annonce CBS News, avec donc des contrôles au faciès, les sans-papiers ont désormais peur de sortir de chez eux, explique ABC News, ce qui fait aussi baisser l'activité des commerces. Nous formons une famille tous ensemble, peu importe notre couleur de peau, notre race et notre nationalité, explique un ancien pompier sur CBS Miami. Les États-Unis ne doivent pas être racistes, mais aujourd'hui, les gens ont peur de sortir, d'aller travailler. Cela affecte bien sûr leur famille, mais aussi nos commerces, nos magasins qui paient un loyer élevé et qui risquent de mettre la clé sous la porte dans notre ville si personne ne vient y faire ses courses. La résistance économique aussi, c'est l'arme utilisée par la NAACP, première organisation de défense des Noirs américains, rappelle The Detroit News. Elle a appelé donc à boycotter des chaînes de supermarchés comme Target et Walmart pour privilégier Costco ou Ben & Jerry's, la marque de glace, qui ont maintenu, eux, leur programme de diversité, d'équité et d'inclusion, explique CNN. Résultat, la fréquentation des magasins Target a baissé de 4% dans la seule semaine qui a suivi l'abandon de ces programmes de diversité. Un quart des consommateurs aux États-Unis ont ainsi abandonné leur magasin préféré en raison de position politique, précise le Guardian.
Et pendant ce temps, Donald Trump continue de faire avancer son programme.
Programme pour lequel il a largement été élu, rappelle Fox News. La Maison-Blanche, qui veut donner un sentiment de toute puissance, relève un éditorialiste du New York Times, vient d'ailleurs de publier sur son compte Twitter une vidéo censée être de l'ASMR, avec des sons donc censés être agréables pour l'oreille. Ce que vous entendez, ce sont des chaînes sur le tarmac d'un aéroport. Des chaînes mises sur des exilés sans papier, menottés, avant de les faire monter dans un avion, décrit le populiste New York Post et le Seattle Times, ville où la vidéo est censée avoir été tournée. Elon Musk a répondu à cette vidéo, waouh, sur Twitter, avec des emojis d'un troll et d'une médaille d'or. C'est une vidéo déshumanisante, accuse MSNBC. Vive le roi a par ailleurs tweeté la Maison Blanche avec un Donald Trump couronné sur une image qui parodie une couverture du Time Magazine, note Politico. Donald Trump qui a également déclaré cette semaine que celui qui sauve son pays ne viole aucune loi. Et s'il suivait la pensée de Curtis Yarvin, qui milite pour une prise de contrôle autocratique des États-Unis, demande le Guardian. Curtis Yarvin, penseur néo-réactionnaire, blogueur d'extrême droite, veut tourner la page des Lumières pour entrer dans l'époque des Lumières obscures, des Lumières noires, analyse également la revue française Le Grand Continent. Ou comment transformer l'État américain en start-up, enfermer les individus jugés inutiles et instaurer une nouvelle monarchie. Curtis Yarvin a l'oreille du premier cercle du président républicain, explique le Guardian.
Merci beaucoup Catherine Dutu.